à aborder ce soir, donc c'était le thème du bonheur par Jean-David Messica. Je me suis dit, c'est sûr que je parle pas parce que c'est un thème comme ça qui me posait problème. J'ai reçu ça le soir de plomb durci. Donc c'était pas de mise et ça me gênait. Au fur et à mesure, bon, il y a eu le printemps et j'essaie d'aborder la question, aborder pas mal de textes avec vous pour suivre un certain fil. Alors, initialement, c'était basé sur le terme Ashrei. Donc, il y a eu un choix de dire que Ashrei, ça voulait dire le bonheur. C'est sûr que ça s'associe à ça. Au niveau, on va dire, des grammairiens, donc on rapproche Ashrei à quelque chose de chazak, quelque chose de force, de stabilité, de démarche, on va dire, où on assure une certaine démarche. Et c'est sûr qu'il y a on va dire, une connotation avec le terme de bonheur. Maintenant, là où on en parle clairement de cette façon-là, c'est dans le Perek Dalet de Avot, où la Mishnah pose la question. Alors, il y a un glissement, vous verrez. Ezé ou Achir, donc vous avez le texte. Ezé ou Achir, en Mishnah de Avot, Perek Dalet, Mishnah Aleph. Ezé ou Achir, Asamer Bechelko. Donc c'est quoi un homme riche? C'est un homme qui est content de sa part. Donc entre Achir et Osher, il y a une connotation similaire. Un veut dire riche, l'autre on traduit par donc soit heureux, soit félicité, soit on va dire. Ses pas sont assurés, ou on voudrait bien assurer ses pas. En tous les cas, ici, c'est quoi un homme riche? C'est celui qui est joyeux de sa part, et on va emmener un passouk où on parle de Yegi Akapecha Kitochel Ashrecha. Donc on va traduire ensuite le passouk. Donc, c'est quoi un homme riche? C'est celui qui est satisfait de sa part. Et il y a Hachenehemar, on prend un verset pour cela. Reprenez le texte. Voilà. Donc, a priori, on aime à dire, c'est quoi un homme riche? C'est celui qui est content de ce qu'il a, content de son sort, forme de platitude. On aimerait bien que ça se passe comme ça. C'est-à-dire, si on pouvait tous être contents de notre sort, on aimerait bien que ça se passe comme ça. J'explique, avant de commencer, c'est que ce qui me dérangeait beaucoup dans la question du bonheur, c'est qu'on revendique tous le bonheur. Mais je pense qu'on passe la plupart de notre temps, enfin pour beaucoup d'êtres humains à Kolpanim, à gâcher justement ce qui pourrait donner le bonheur. Et qu'il y a dans quelque chose, il y a dans le bonheur comme forme de tu-désir, comme ça, comme si en étant heureux, il y a quelque chose de l'ordre du désir qui se défaisait. Et donc le bonheur, c'est quelque chose qui fait mal à entendre. Et là, on vient nous dire une forme de formule magique. C'est quoi un homme riche? C'est celui qui contente son sort. Ben, très bien. Si cette recette marchait, ben, tout le monde l'appliquerait. Et ça ne marche pas. Alors, on a l'habitude d'interpréter. C'est vrai que ça ne marche pas. Fondamentalement, ça ne marche pas. Donc, il y a une interprétation comme ça qui traîne depuis longtemps. Hein. C'est pas depuis maintenant. Qui serait de dire, voilà, ben, si Dieu t'a donné ça, ou si Dieu t'a apporté ça, ben, c'est une forme de istapkout, donc ben, suffis-toi de ça. Ça veut dire que c'est bon pour toi. Donc, ce type d'interprétation, je veux pas dire que. De venir essayer de résoudre les problèmes fondamentaux par, on va dire, par la foi, ça coupe la parole aux mécontents, certes. Et ça ne touche pas du tout, ça ne répond pas à son problème. Ça veut dire, c'est à l'aune de la foi, est-ce qu'on a cette confiance en Dieu, etc. On l'a fait intervenir, ça marche ou ça ne marche pas. D'abord, c'est un problème de foi. Et je ne sais pas si le fond du problème, il est là. Je ne sais pas si c'est le fond du problème du mécontentement ou de l'insatisfaction. C'est d'abord un problème en soi, c'est d'abord une question à travailler. Et il ne serait pas de bon augure de venir dire. Que voilà, le riche, c'est celui qui est satisfait de sa part, parce que justement, le bon Dieu, il lui a donné ça, donc ben, il pense pour toi. Donc c'est aller vite en besogne, et c'est tricher avec la religion, peut-être une fois de plus. Donc, Ezeu Achir à sa mère Bechelko, la Mishnah elle nous donne cet aphorisme, mais elle ramène un Shenemar, elle ramène un Pasuk. Shenemar, Yegia Kapecha, Kitochel. Donc la fatigue de tes mains, lorsque tu la consommeras. Ashrecha Vetovlach. Ashrecha, si c'est. Sois heureux avec ça, félicitations, marche avec, renforce-toi avec ça, Tovlach, ce sera bien pour toi. Ashrecha, Olamazé, c'est dans ce monde-ci, Vetovlecha, Leolamaba, et ce sera bon pour toi dans le monde futur. Donc, Tov, c'est toujours quelque chose que les sages aiment à accoler au monde futur. Tov, c'est pas quelque chose qui appartient beaucoup à ce monde-ci. Lemani tavlar ve'arartayamim, yom shekulo tov. On voit qu'il y a beaucoup de textes talmudiques où chaque fois que le terme tov est apporté, on aime bien le rapprocher. On aime bien le rapprocher à la notion de ce monde futur. Donc nous, pour l'instant, on va pas aborder le problème du monde futur. On va essayer de rester dans la première partie qui est quand même le thème de ce séminaire, c'est Ashrecha. Donc d'ici, dans l'en-deçà plutôt que dans l'au-delà, dans l'en-deçà. On parle donc de Ashré. Mais ce qui est introduit par ce passouk de radicalement différent par rapport à la première sentence de la Mishnah, c'est de dire que on ne parle plus de l'héritage, l'héritage financier, l'héritage physique, l'héritage intellectuel. On ne parle pas de ce qui est acquis à l'homme en tant qu'inné chez lui, c'est pas de ça dont on parle. Quelle est la part que tu as dans ce monde, c'est pas la richesse que tu as, c'est pas non plus comment tu es beau ou pas beau, intelligent ou pas intelligent, ou whatever, toutes ces choses-là qui sont de l'ordre de l'inné, mais c'est plutôt Yegia Kapecha, ça veut dire Yegia Kapecha, la fatigue de tes mains, ça veut dire ton investissement, ce que tu fais, ce que tu fabriques, là où tu te positionnes, on veut dire, en tant que sujet dans le monde. Quel type de rapport tu entretiens avec ça? Donc, de cette fameuse phrase, c'est quoi un homme riche? C'est celui qui est satisfait de sa part. Le pasouk vient parler complètement différemment de quelle part il s'agit. Il ne s'agit pas de part, on va dire, innée. Il s'agit d'acquis, d'investissement. Donc, on peut reprendre la question. C'est quoi un homme riche? Donc, il y a une forme de glissement entre riche et acheré. C'est vrai qu'au niveau des phonèmes, ça se ressemble. Comme la question qui serait, c'est quoi un homme sage? On va jamais parler dans la question, c'est quoi un homme sage? Celui qui apprend de tout homme. Donc, il y a deux termes qui sont posés. C'est un homme sage, par définition, c'est pas un homme qui connaît. Un homme sage, c'est celui qui apprend. Et par définition, un homme sage, si on parle d'homme, c'est un homme qui apprend d'un autre homme. Ça veut dire qui considérait qu'il y a de la sagesse chez l'homme. Et donc, on peut parler de sagesse chez lui. Donc, on parle de façon radicale sur ce serait quoi la sagesse. Donc, ça se mesure pas. C'est un rapport. Donc si on parle de la richesse, c'est dans cet ordre-là. C'est en tant que rapport. On ne parle pas donc d'acquisition, on parle de rapport aux choses. Et donc si on parle de rapport, on aurait pu intégrer le rapport à l'inné, mais il y a volontairement un glissement du verset de ne pas l'intégrer à l'inné, mais de l'intégrer à l'action, à l'investissement. Et l'investissement ici, il est ramené par Yegia Kapecha. La fatigue de tes mains, Kitochel, lorsque tu daigneras la consommer, lorsque tu daigneras avoir un regard là-dessus. Donc, il ne s'agit plus de questions de Emouna, il ne s'agit plus de questions de confiance ou pas en Dieu, bien que ce thème soit abordé dans beaucoup de textes talmudiques, je veux dire, Kolman be'avid rachmanal et avavid, ce que Dieu fait, c'est pour le bien, etc. C'est abordé. Mais ce n'est pas en tous les cas le thème de notre Mishnah. Et à juste titre, c'est que si on pose la question comment on peut, on va dire, trouver quelque chose de l'ordre de la richesse qui soit, on va dire, en adéquation avec nous, c'est-à-dire qui soit de l'ordre de nous-mêmes, ben pour ça, hein, on ne peut pas faire appel à quelque chose, on va dire, qui serait de l'ordre de la foi. Parce que c'est antinomique à la question elle-même. Voilà. Donc, on pose déjà un premier jalon. Alors, quand on dit Yegia Kapecha Kitochel, Moi, ça m'a tout de suite, en tant que, on va dire, consonance, ça m'a rappelé une autre Mishnah. La Mishnah dit la chose suivante. Vous n'avez pas le texte, je vais vous le dire. C'est Yafé, Talmud Torah. La Torah est belle, l'étude de la Torah est belle. Inderecheretz, avec le cheminement sur la terre. La Torah est belle avec le cheminement sur la terre. Chez Yegiat, Yegia, donc c'est le même terme, Yegiat Shenem, car se fatiguer, s'épuiser, Ayef et Yagea, s'épuiser dans les deux, Mashkachat Avon, ça fait oublier la faute. Yafé Talmud Torah im de'er eretz, chez Yegiat Shenem, Mashkachat Avon. Donc la Torah est belle lorsqu'elle est accompagnée avec un cheminement sur la terre, ce que les gens ont l'habitude d'appeler le travail, mais les sages, on va dire, sont plus précis, ils parlent de cheminement sur la terre, car l'effort dans les deux fait oublier la faute, comme si on avait une obsession de cette fameuse faute. Ben oui, mais oh, travaille, 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 enfin, occupe-toi, fatigue-toi, épuise-toi sur deux domaines, tu oublieras la faute. Alors, ce qui est posé, donc, je fais un rapprochement déjà entre Yegi Akapecha, Yegiat Shneem. Se fatiguer, donc dans cette Mishnah, ce qui est posé d'emblée, c'est d'établir une forme d'opposition entre ce qui serait donc la Torah et ce qui serait du Derech Eretz. C'est-à-dire comme si il y a dans la Torah autre chose que le cheminement sur la terre. Le cheminement sur la terre, c'est une chose. Et la Torah parle aussi d'autre chose. Comme si on posait dans le débat de ce qui est un être humain. Un être humain, ça ne peut pas se poser qu'en termes de psychologie, d'économie. Ça se pose aussi dans autre chose qui s'appelle la Torah. Et on ne peut pas, on va dire, reléguer la Torah ni à de la psychologie, ni à de l'économie, ni à comment on marche sur la terre, ni qu'à une forme d'équilibre. Parce que ça s'appellerait du DRS. Donc déjà, on va dire, on divise les choses comme si un homme ne pourrait pas faire appel à une seule trame de lui-même qui est comment cheminer dans la vie. Il est appelé par autre chose qui serait, entre guillemets, une Torah qui est autre chose que cheminer dans la vie, qui est autre chose que cheminer sur la terre. Cheminer sur la terre. Donc, ces deux termes qui sont mis face à face. Et par rapport à ces deux choses, il y a une forme d'effort, effort à fournir. Alors, il ne s'agit pas de faire le culte de l'effort, je veux dire, notre Little Big Man s'en charge, mais il s'agit ici de poser on va dire, l'injonction qui est mise de façon latente lorsqu'on parle d'effort. C'est-à-dire que lorsque je vous dis, il y a un effort à fournir, il ne s'agit pas d'un effort névrotique, comme ça, grâce à ça, on oubliera la faute. Il s'agit que si je dis il y a un effort à fournir, c'est que je pose de façon radicale la question du manque. De façon radicale, je dis que si tu dois fournir un effort, ça veut dire que tu es manquant. Et si tu tentais à l'oublier, eh ben moi je te le rappelle, tu manques. Il y a quelque chose chez toi qui manque. Et ce manque, il est sur deux trames différentes, qui seraient la trame de la Torah, donc on va dire, forme de métalangage, et la trame du DRS, donc d'un cheminement de choses, on va dire, plus prosaïques, mais qui sont fondamentales, et dont on ne peut pas, on va dire, détourner nos yeux de ça. Et sur ces deux choses-là, tu manques. Alors l'homme qui ne veut pas manquer, je veux dire, il peut fermer les yeux là-dessus. Non, non, ben, tu manques. Et donc il y a un effort à fournir. Et si on lit le texte comme ça, donc ça voudrait dire que le troisième terme qui est rapporté dans ce texte, qui serait donc le avon, serait serait, on va dire, le avon, ça serait de venir nier le manque, de venir dire il n'y a pas de manque, ou s'il y a un manque, ah ben, il y a des solutions faciles qui ne passent pas par l'effort. Il ne s'agit pas ici de venir dire que la faute serait d'être paresseux. Il s'agit de dire que la faute essentielle, c'est de nier le manque. Et on va un petit peu développer ça. Donc on reprend. Il y a fait Talmud Torah im derech eretz shegiat shneim hashkachat avod. Donc il y a le concept de la yegia. Et par la yegia est introduit la notion du manque. Et c'est ce qui me dérangeait au départ. C'est le bonheur. C'est vouloir nier le problème du manque. Et dans le bonheur, il y a quelque chose comme ça qui... C'est un tu-désir, le bonheur. Le désir, par essence, c'est manquer. Qu'est-ce qu'on fait du problème du manque? Eov et amelacha, aime le travail, c'est une chose. Mais là, c'est plus que ça qui est dit dans ce texte. C'est que on associe, on va dire, la faute, comme si on savait de quoi on parlait, à cette notion de non, on manque pas. Ils viennent rachamim, comme ça, ils nous tourmentent avec leur histoire de manque. Alors pour ça, de quoi un homme manque? Alors, au moins, il manque à s'investir. Ça veut dire, il manque à se produire. Il manque pas forcément d'un objet, il manque à se produire. Et lorsqu'on pose la question, quand on pose la question, c'est quoi un homme riche? C'est celui qui sait avoir un regard sur son effort. Ça veut dire que ça ne suffit pas de produire un effort pour se sortir du problème de la faute. Après, quel type de regard j'entretiens avec la notion de l'effort? Quel type de regard j'entretiens avec la notion du manque? Qu'est-ce qu'un effort, pourquoi? Alors, est-ce que la Mishnah fait le culte ici de dire que l'insatisfaction, ce n'est pas une bonne chose? Il faut être tous des gens satisfaits? Entre la satisfaction et la médiocrité, il n'y a qu'un pas. Entre la satisfaction et la médiocrité, il n'y a qu'un pas. Et c'est ce que cette Mishnah nous dit, « Yegiat shneem mashkachat avon », c'est-à-dire la médiocrité, dans la non-satisfaction, il n'y a qu'un pas. Donc, ce que je voudrais commencer à peut-être travailler, c'est de dire que dans la yegia, de quoi il s'agit lorsqu'on parle de faire un effort? Il s'agit de produire de soi. C'est-à-dire de venir considérer que s'il y a un manque, le manque essentiellement, il est le manque de sa propre production. Il est le manque de sa propre création. C'est pas, je ne fais pas le culte du moi, je ne fais pas le culte comme ça de cette forme d'autonomie, mais je viens de dire que ce qui est posé par les Chachamim, c'est que dans les deux strates, on va dire, de l'individu qui serait en rapport à un métalangage et un rapport, on va dire, au cheminement, dans ça, il y a un manque de lui. Et ce manque de lui, c'est sa yegia. De cette yegia dont on parle, c'est-à-dire qu'il y a un manque de cette production qu'on peut amener. Et lorsqu'on on pousse la, on va dire, le diouk du texte, on s'apercevra que ce qui est écrit dans le texte, c'est pas tant pris kapecha tochel, lorsque le fruit de ce que tu as fait, tu mangeras, alors à ce moment-là, tu seras un homme heureux, c'est plutôt lorsque l'effort de tes mains, non pas le fruit de tes mains, mais l'effort de tes mains, ça veut dire ce qui est peut-être posé de façon assez radicale dans le texte, c'est pas possible, mais c'est posé au moins de façon comme ça, c'est, on parle non pas du résultat, mais on parle de la démarche en tant que production. En tant que production, en tant que sortir de soi quelque chose. Donc on poserait le problème de la satisfaction, ça veut dire le problème de la richesse, ce serait de dire que il ne s'agit pas dans la production d'une production de quelque chose, il ne s'agit pas d'un manque d'un objet, il ne s'agit pas d'un manque de quelque chose, il s'agit d'un manque à produire, un manque à exprimer. Ce n'est pas d'un manque d'objet dont on parle, c'est un manque d'expression. Donc, où est le lieu de la richesse d'un homme? C'est lorsqu'au bout du chemin, il s'aperçoit que par rapport à la question du manque, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de position qui pourrait résoudre le problème du manque. Il n'y a pas de solution, peut-être, au problème du manque. Mais s'il y a manque de quelque chose, c'est un manque du dire, un manque du produire. C'est de ça dont on manque. Et ça dépend que de ce qu'on veut bien dire. Et lorsqu'il y a insatisfaction, alors l'insatisfaction, ça on va dire au moins deux, on va dire, il y a un avantage dans la satisfaction. L'insatisfaction, c'est une forme d'étrangeté. Quand un homme il est insatisfait, on ne peut pas dire que l'insatisfaction c'est comme ça quelque chose qui a un signe extérieur de pauvreté, selon le langage de la Mishnah. L'insatisfaction, ce n'est pas un signe extérieur de pauvreté uniquement. L'insatisfaction, c'est aussi ce qui dénonce l'étrangeté d'un homme par rapport à quelque chose. Ça veut dire, quand un homme est insatisfait, c'est qu'il ne colle pas forcément à la chose. Il est insatisfait, c'est aussi, voilà, entre ce qu'il fait et ce qui se trame à l'intérieur de lui, il ne joue peut-être pas sa partition. Donc il y a une insatisfaction. On ne peut pas donc venir critiquer l'insatisfaction comme ça. Mais dans une forme, on va dire, d'appareil minimal, on peut dénoncer dans l'insatisfaction que si tu es insatisfait, c'est que peut-être tu as posé le problème du manque sur un manque d'objet. Et un manque d'objet, c'est sûr que ouais, l'objet que tu tiens, c'est pas grand-chose. Par contre, si la question du manque, c'est un manque à produire, c'est un manque à dire, alors à ce moment-là, je veux dire, tout est entre tes mains. Donc l'homme riche, selon cette Mishnah-là, ce serait quoi un homme riche? C'est-à-dire, ce serait quoi un homme qui, on va dire, le lieu de sa dépendance est pas trop loin de lui? C'est un homme qui arriverait à se satisfaire de sa part, en tant qu'aphorisme, non pas qu'il est content de ce qu'il a, ce qui est la pire des choses, c'est qu'il est content de son investissement. Ça veut dire, sur son investissement, il est prêt à le manger. Il est prêt à dire j'en mange. Et de dire je mange de ce que je fais, c'est pas du tout, du tout, du tout, du tout évident. On a très souvent, sur notre propre production, un regard acerbe. Comme si on était pris par on pouvait faire mieux. Une forme de choses qui nous exproprie de nous-mêmes, qu'on aurait pu faire mieux. Il y a cette étrangeté. Alors, entre ça c'est assez fin parce que entre ça et la médiocrité, entre ça ou l'étrangeté qui est justifiée, et une insatisfaction primaire dans le sens où on parle de manque d'objet, où on parle de manque à être dans le sens qu'on devrait être quelque chose de complètement imaginaire, entre chaque partie et partie, le fil est très fin. Et on peut passer de l'un à l'autre très facilement. Ce n'est pas une position, on va dire, claire. La satisfaction, c'est pas qu'on ne peut pas en faire un culte, c'est au moins une question de quelle insatisfaction il s'agit. Donc voilà. Donc là, on a progressé sur cette Mishnah, c'est de venir dire que dans la satisfaction de sa propre part, il ne s'agissait donc pas d'une forme de se satisfaire, il ne s'agit pas de dîner. Il s'agit de revenir à la question du sujet dans ce terme-là de la richesse. Ça veut dire de réintroduire ça là-dedans. C'est pour ça que le passouk qui est ramené dans la Mishnah, il est extrêmement, on va dire, précis. Il fait basculer le Sameach Bechelko à donc se satisfaire de sa part, comme la part, comme si ah, c'est ma part dans ce monde, c'est mon lot. Il fait glisser ça à l'effort de ta main, donc l'effort c'est radicalement le sujet, et donc il nous fait entendre que ta part dans le monde, ta part dans les choses, c'est uniquement ce que tu produis, il n'y a rien d'autre. Le reste, c'est pas ta signature, c'est la signature d'une autre personne. Ta signature, c'est ce que tu as à dire. Donc vers ça, il renvoie la personne. Ta signature, c'est ce que tu as à produire, à faire. Dans ça, il nous renvoie. Et c'est très intéressant, donc cet aphorisme qui paraît complètement bêta, il est dit bêtement, volontairement. Ça veut dire que c'est que chez nous, dans notre tête, il y a une forme de glissement. C'est quoi ma part? Oui, comme si ma part, c'est. Oui. C'est quoi ma part? Non, mais ta part, c'est. Ta part avec un grand M, ma part avec un grand M, c'est justement ce que j'ai à dire. Voilà, dans le premier. Ok, ça s'articule de façon fondamentale, donc la Yegia, de façon sous-jacente, elle articule la notion du manque. Et c'est ça qui était important pour moi, que le manque soit mis en... Voilà, c'est ce qui abaisse déjà mon angoisse par rapport à la question du bonheur, c'est que lorsque les Chachamim m'en parlent, donc ils parlent déjà pas de Tov, ils parlent de Asheri, pardon, on va dire, on arrive à marcher là-dedans, on a une démarche, on va dire, sur laquelle on tient, et il y a une félicité dans cette démarche, mais qui est liée fondamentalement avec la question du manque. Donc ici, il y a la richesse, c'est le premier terme. Deuxièmement, il y a Yegia, l'effort, c'est le deuxième terme. Et troisièmement, il y a le terme Asheré, Osher, ce qu'on donc on rapproche de la du bonheur. Les trois termes sont liés ici dans cette Mishnah. Voilà, ça c'est la première chose. Alors là où les Chachamim poussent le bouchon un peu loin, c'est dans un texte. Imagine qu'à j'ai pas eu le plaisir de l'écouter. Il a commencé à être traité au Beit HaMidrash. Je crois que les choses sont mises sur Internet, donc j'irai l'écouter. C'est le texte que vous avez ici. Gadol ané mi yegia kapo yoter meyere shamaim. C'est donc le terme dans Brachot d'Afret. Et sept lignes avant la fin. Huit lignes avant la fin, pardon. Voilà. Vous avez le texte. Amar Rabbi Chiya, donc huit lignes avant la fin, c'est là où il y a deux points. Amar Rabbi Chiya Barami Mishmei Deula. Donc voici ce que Rabbi Chiya Barami a dit au nom de Oula. Donc Gadol Anéené Meyegio. Plus grand est celui qui a un profit, Meyegio, de son effort. Yoter Meyere Shamaim, que celui qui craint Dieu. Des Ilou Gabe Yere Shamaim, parce que par rapport à celui qui craint Dieu, Ktiv, il est écrit Ashrei Ish Yeret Adonai. Heureux l'homme, donc si on traduit heureux, parce que je ne suis pas sûr que c'est la vraie traduction. Ashrei Ish Yeret Adonai. Voici celui qui craint l'Éternel, Ashrei. D'accord. Veilu gabe ne'ene meyegio, par rapport à celui qui est ne'ene meyegio, donc qui a une satisfaction de son effort. Ketiv yegia kapecha, il est écrit yegia kapecha, donc l'effort de tes mains, qui tochel, lorsque tu le mangeras, ashrecha vetovlar. Donc il y a deux termes qui sont employés. Un terme, donc ashre, encore une fois, ce fameux terme. Vetovlar, c'est bien pour toi. Alors ashrecha, on divise Ashrecha ba'olam hazeh ve tov lecha le'olam haba. C'est Ashre dans ce olam et tov lecha dans le monde qui vient. Voilà. Donc, les sages, donc, ils sont toujours interpellés par les effets signifiants. Et donc, ils voient deux Ashre, donc ils sont interpellés par le Ashre, comme ça les interpelle. Et pour un Ashre, il y a, ben, on qualifie quelqu'un avec Ashre. Par contre, pour l'autre, on a deux qualificatifs. C'est Ashrecha et Tovlecha. Donc, les Rachamim découpent le verset, ils disent Ashre, bon, on le relègue à ce monde-ci, et Tov, on le met pour le monde futur. Bon, Tov, on le met toujours pour le monde futur. J'imagine que ça a dû être débattu ou que ça sera débattu. En tous les cas, dans l'an de ça, ou bien dans l'avant, on va dire, dans celui-là, on ne peut faire que du Ashre, mais dans le Yerushalayim, on ne lui a pas donné deux termes. Ça ne veut pas dire qu'il a rien à voir avec le monde futur, mais comme si dans l'ordre du monde futur, il est aussi apparenté avec le Hacheré. Bon, je suis pas futuriste, je ne sais pas faire avec ces choses-là, ça m'est un petit peu difficile. Et donc, ce que moi je vais rester, on va dire, dans cette Torah qui est la Torah du Olam Hazeh, et je vais essayer de savoir, donc la question elle est patente, qu'est-ce qu'on nous parle de... Donc du Yerei Shamayim, de celui qui craint Dieu, donc le Quaker, quoi, c'est pas n'importe qui. Si je me rappelle dans ce passouk, c'est Ashrei Sheret Adonai ou Mitzvotav Chafetz Meod. Et la Gemara, et donc heureux celui qui craint Dieu, et dans ses mitzvot, il a du désir. Et la Gemara dit dans ses mitzvot, et même pas dans le salaire de ses mitzvot, c'est-à-dire il a du désir pour les mitzvot du Créateur, pour les commandements de Dieu, Et c'est pas qu'il a du désir pour le salaire des mitzvot. C'est un type qui est auteur, comme il a du désir pour les mitzvot du Créateur. Et celui-là, on vient et on l'associe avec le Nenemi Yegi Akapo. Comme si, on va dire, on compare un petit peu les pastèques et les haricots verts. Le problème, c'est qu'il faut essayer de trouver un trait commun entre les deux. Et c'est gênant aussi, ces affaires-là, où on nous dit... Alors, ce qui est intéressant, c'est... Ici, on a un petit peu plus précisé la chose. C'est que le terme du pasouk, c'est « Yegia kapecha kitochel » lorsque tu consommeras de l'effort de tes mains. Donc on dit bien l'effort et non pas le fruit. Le terme « ochel », on l'a fait glisser vers lorsque tu auras du profit de ça. C'est comme si, on va dire... Dans le terme « ochel », en hébreu, c'est une consonance sexuelle. « Achla o martapi u vamra lo palti aven » C'est une consonance aussi de l'ordre de le manger, et c'est une consonance sexuelle aussi. La relation sexuelle est appelée « achla », elle a mangé. Donc, les rachamim font un glissement et disent « celui qui a du profit de ce qu'il fait, celui-là, il est plus grand que celui qui craint le ciel. » Et ils n'ont pas honte, eux, en tant que, on va dire, les garants de la religion, de venir mettre en comparaison les deux, de dire « il y a une grandeur par rapport à celui qui craint Dieu, il y a une grandeur, on a vu quelque chose de plus grand, c'est celui qui mange de... » Alors, il est certes clair qu'on ne va pas faire basculer le débat en disant « Yegia Kapecha, c'est celui qui bosse et qui va gagner sa vie au sens propre du terme. » Non pas que celui-là, il ne serait pas plus ou moins grand que le Yerushamayim, mais je ne veux pas faire un débat d'idéologie, il faut bosser, il faut craindre Dieu. Je ne sais pas du tout de ça dont on parle, puisqu'on parle de type de rapport aux choses qui est type de rapport, on va dire, à l'ordre de Dieu, qui serait un de l'ordre de Yéra, Yératique, et l'autre de l'ordre de Yéguia. Bon. Alors, pour ce texte-là, j'avais pensé qu'il serait bien de revenir à, on va dire, donc, ce qui revient, revenir un petit peu à ce qui est la genèse de la Yéra dans la Torah. Probablement, la crainte, donc la crainte et la Yéra, Yératique, la crainte, c'est donc on n'a plus besoin de traduire un Yéra. La crainte, ça s'assimile fondamentalement à la Genèse, mais il y a dans un passouk de la Torah une forme de Genèse de la crainte. Alors, vous allez voir avec moi la paracha. Alors, la paracha, elle est... ça a été ramené par Monsieur Troncard. Je n'ai pas le texte. Allez, voilà, merci. Alors, ce que vous avez, c'est dans là où c'est écrit Shemot Yitro, donc verset 15, donc chapitre 20, verset 15, c'est cette feuille où c'est écrit Yitro. Donc c'est après la révélation. Bon, c'est cité dans la Torah, du moins après la révélation, après l'ordre chronologique, c'est notre affaire. Donc la révélation des 10 commandements, on est dans le mont Sinaï, c'est pris comme étant aussi impressionnant sur le plan de la scène, pas seulement sur le plan peut-être du contenu, mais beaucoup sur le plan de la scène, et c'est présenté comme ça. Et tout le peuple voit donc les voix. Excusez-moi, mais c'est pas de ma faute. Et tout le peuple voit les voix. Voit donc, on va dire, les sons pour empêcher de. Vet à lapidim, vet kol shofar, vet à arachen. Donc, comme ça, les lumières, la montagne enfumée, le son du shofar, le peuple voit. Le verbe, c'est voir. Au lieu qu'il entend, il voit. Il voit l'audible. Veyaram. Alors, le peuple, il a vu. On n'avait pas compris. Le peuple, il a vu. Lorsqu'il a vu, Vayanou. Ça l'a remué. Ils ont bougé. Veya Amdou Merachok, ils sont partis en arrière. Donc, d'en voir, il y a un truc qui les dérange. Donc, c'est exprimé deux fois. Lorsque le peuple voit les voix, il part en arrière. Vayomeru El Moshe, Daber Ataïmanou Venishma'a. Ils ont dit à Moshe, parle-toi avec nous, Venishma'a, et qu'on entende. C'est le cas de dire. Parce que avant, Ali Daber Imano Elohim, et que le Elohim ne parle pas avec nous. Pen Namout, parce que de peur qu'on en meure. Enfin, c'est le cas de le dire. C'est que. Qu'il parle toi avec nous, parce que comme ça on entendra, on verra pas. Jusqu'à maintenant, quand le Elohim parlait avec nous, ben, il parlait, on voyait. Yomer a Amel Moshe. Moshe, il voit clairement comme ça une attitude du peuple. Il dit, tiens, ce peuple a peur. Il est yaré. Alors il dit, Altiraou, n'ayez pas peur. Pourquoi n'ayez pas peur? Qu'il est bavour, nasot et treb, c'est pour vous, on va pas traduire, pour vous élever ou pour vous sonder que ba Elohim. Donc premièrement, ça a un premier effet. C'est-à-dire que ça a une première conséquence, cette révélation sous cette forme-là qui, on va dire, effrayante. Ça vous élève. Parce qu'il y a plusieurs traductions, mais on ne va pas rentrer dedans. Et secondo, bah, vous, tiye yirato al penechem, et afin que soit une forme de crainte sur vos visages, les bilti teretaou, afin que vous ne fautez pas. Donc, la fameuse faute, on a l'obsession de cette faute, on ne sait pas laquelle d'ailleurs. Il y a une faute comme ça qui. On ne sait pas c'est quoi la faute. Et on ne va pas parler de ça parce que là, ça va être vraiment difficile. Mais ce qu'on va parler, c'est au moins une forme de genèse dans toutes les générations de la crainte. Et c'est intéressant que. C'est écrit dans les Gemarot, Bochet Panim, ça vient d'ici. La honte, une forme de gêne, elle vient de cette crainte-là. Et cette crainte, elle vient par quoi? Parce qu'il y a une révélation très forte. Voilà. Donc, pourquoi je vous fais peur? Vous avez peur, c'est insupportable, il faut partir en arrière. Je suis d'accord, c'est fort. Mais grâce à ça, plus tard, vous aurez une forme de yirato al penechem, forme de sur votre figure, il y aura comme ça, comme une forme de honte. Les bilti techetaou et ça vous aidera à moins fauter. Donc voyez à Moda Amerachok, très bien, mais le peuple quand même il va en arrière. Okay. Donc clairement dans ces versets, il y a une frayeur qui est là pour justifier, qui est justifiée pardon, pour produire une forme de crainte de Dieu. Donc voilà, la genèse de la crainte elle est là, a priori. Et on va dire, on peut le dire comme ça, on pourrait le dire différemment. Une des différences d'entendre et du voir, c'est que d'entendre, on va dire, les sons se suivent les uns après les autres, s'égrènent, comme pour suivre le fil de ma pensée. Je te dis ça, il y a un sujet, un pronom, un verbe, et machin, un complément pour les verbes. Donc, il y a une forme, j'égrène, et des choses, elles suivent le fil d'une pensée, ça veut dire que il ne s'agit pas qu'on tombe dans le rationnel, il s'agit que j'accepte de venir dire que j'ai en face de moi quelqu'un et il y a des règles pour qu'il arrive à entendre ce que je veux lui dire. Ce n'est pas souvent le cas, mais on va dire, dans entendre quelque chose, il faut bien que des choses s'articulent les unes après les autres et qu'on passe ce qui, dans le voir, lorsqu'on voit le son, c'est peut-être bouleversé ces choses-là. C'est-à-dire que le sujet est peut-être après le verbe ou avant le verbe ou le pronom, etc. On quitte ça. C'est-à-dire qu'on ne respecte peut-être plus le mécanisme de. Donc il y a une forme de. Dans la frayeur, ce qui serait peut-être, on va dire, ce qui génère la frayeur, ce serait peut-être de venir dire à quelqu'un quelque chose qui est saisissant, saisissant de vérité, mais qui ne peut pas digérer. De l'emmener dans un lieu tellement fort, personnellement, à chaque fois que j'ouvre un livre de Kabbale, je sens quelque chose de vrai, mais ça fait tellement peur, ça veut dire que ça ne suit tellement pas les chemins. Que je vais rentrer dans un chemin qui ne suit pas le cours d'une pensée que je peux suivre. Il y a une forme de presque de, pas, il ne s'agit pas de dire de viol de la pensée, mais il s'agirait de venir dire que je suis saisi par une vérité auquel je veux coller, mais j'en ai pas les moyens. Et j'y vais quand même. On a peur. Si on est indifférent, on n'a pas peur. Si on s'en fiche complètement, si on dit non, on n'est pas du tout là-bas. Non. Ah, ça, pas du tout. Ce que tu dis, ce que tu racontes, c'est pas du tout moi. Tu me parles de quelqu'un, c'est très bien, mais c'est pas nous. En quel cas, j'ai pas peur. Mais c'est lorsque je veux jouer le jeu, mais je ne suis pas à même de le faire, j'ai pas les moyens, et je veux jouer quand même, et je pose pas trop la question des moyens, peut-être que je le joue parce que justement je suis pris. Peut-être que je peux même plus poser la question. Alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la frayeur. Et il semblerait que tout Israël soit passé par cet épisode-là, et ils en ont retiré au moins une forme de honte. C'est intéressant la honte, on en parlera une autre fois. Là, c'est intéressant. Veloïd Bochachou avec Adam et Chava, c'est intéressant, on peut pas en parler. Voilà. Donc une forme de. N'est pas trop à notre place. Comme ça, on est tous, on va dire. Il semblerait, selon ce texte, qu'on soit tous passés par là, autant qu'on veut y jouer les jeux, peut-être même si on ne veut pas jouer les jeux. Et il y a un truc de l'ordre de la crainte, de l'ordre donc de la dissonance. Si on entend la crainte par ça, il y aurait une autre façon de venir dire que Yegia Kapo, Yegia Kapecha, ça serait venir réintroduire Yegia donc l'effort de ta main. Ça serait venir réintroduire, non plus pour l'instant sur le plan de la satisfaction, mais de venir réintroduire la question du sujet sur quelque chose qui est complètement mangé, sur un sujet qui est complètement mangé par un discours qui lui vient comme ça d'ailleurs, dont personne n'échappe à ça. Personne n'échappe à ça, même après qu'on veut faire l'effort de venir introduire la question du sujet. Mais il y a quand même ici la question de dire, y a-t-il une place pour le sujet dans ce discours-là qui vient par la révélation du Dieu? Les chemins sont risqués, c'est-à-dire de venir reposer la question du sujet. C'est venir à la limite de dire, est-ce que ça me parle véritablement ce problème de Yira? Est-ce que je rentre dans la partie ou pas? Ce que les Rachamim viennent dire, c'est qu'il y aurait des gens qui seraient capables de rentrer dans la partie de la Yira en introduisant le Yegia Kapecha. Parce que si on ne le dit pas comme ça, sortir de la partie, donc la parole du Créateur ne parle plus. Or, c'est pas, je veux dire, donc il n'y a plus rien à comparer. Pour dire qu'il y a un lieu de comparaison, c'est de venir dire, voilà, il y a une parole du Créateur, mais à combien je suis dupe que je ne suis pas là-bas? Ou combien je joue le jeu que je suis là-bas? À cette aune-là, peut-être se mesurera la question de la Yira ou la question du Yegia. Et en ça, les Chachamim jouent dur. En disant que selon cette interprétation, il peut en avoir d'autres. Grand est celui, et grand peut-être dans le sens de ce qui joue, grand est celui qui accepte de poser par rapport au problème de la Yira le problème du sujet et de ce qu'il peut en consommer. Voilà. Ça, c'est un. Je veux dire, est-ce que je suis assez clair ou pas? Ça va? Donc voilà, j'aurais voulu, si ça vous dérange pas, continue. Passer voilà. Il y a un texte qui m'interpelle et je pense que ça a à voir avec ça. Alors, le texte, c'est le deuxième. C'est sur celui qui est la parachate qui dit ça. Chapitre 32, verset 1. Voilà. Oui. Si ça vous dérange pas, si ça vous dérange pas, c'est pas le 32, verset 1, c'est juste le verset d'avant. Vaïten Moshe, parce que c'est. Je veux dire, la coupure des chapitres, c'est une arnaque un peu. Et donc, il faut lire comme c'est coupé dans la Torah. Donc, ce qui est coupé dans la Torah, c'est juste avant. Vaïtan el Moshe, Donc, Dieu donne à Moshe, lorsqu'il a fini de parler avec lui, il se parle, Moshe et Akadosh Baruch Hu, le Maharal souligne que quand Dieu parle à Moshe et qu'ils arrivent à se parler, les Daber Ito, il y a dans la Torah, on va dire, une forme de parole entre Dieu et Moïse. Le Maharal ici dit, on sort du dogmatisme. Il n'y a pas de dogmatisme dans le sens. Il y a une parole où Moshe se retrouve dans cette parole. Il n'est pas complètement envahi par ça, il se retrouve dans ça. Voir ce Maharal, il est à traiter. Bon. Be'ar Sinai, Shnei Luchot. Donc, on introduit que Moshe a un dibour avec Hachem. Très bien. Et le Maharal dit, c'est pas écrit lorsque Dieu a fini d'instruire Moshe, de l'empresser, de tzivouy. Non. C'est écrit lorsqu'il a fini de parler avec lui, comme deux personnes qui révisent ensemble quelque chose. Comme ça que les Chachamim le disent. Très bien. C'est comme ça qu'on introduit la paracha d'après. On l'introduit par ce texte-là. Vayar ha'am ki boshesh Moshe. Donc, le peuple a vu que Moshe tardait. Traduction difficile, boshesh. Ça sonne avec boucha, bosh, yid boshashu, mais Chachamim le place ailleurs. Peu importe. Lorsque le peuple a été boshesh, a vu que Moshe était boshesh de descendre de la montagne, il tardait à venir de la montagne. Il tardait. Très bien. Vaikal ha'am ala Aaron. Le peuple s'est empressé auprès d'Aaron. Vayomru et la vidéo, on dit Koum, lève-toi. Asselanu Elohim, fais pour nous des Elohim. Achayelechou lefanenu, qui iront devant nous. Qui zé, car celui-là, Moshe, Haish, l'homme avec un grand H. Haish, l'homme avec un grand H. Asher et Lanu Meret Mitzraim, qui nous a fait monter de la terre d'Égypte. Lou Yadanu Meayalo, on ne sait pas ce qui s'est passé avec lui. Donc fais-nous des divinités, enfin, fais-nous des Elohim. Des trucs assez forts comme ça qui peuvent nous juger, nous donner des repères, nous guider, qui aillent devant nous. Quelqu'un qui va parler sur Italer et Fanaï, qui aillent devant nous. Qui zé Moshe Aish, car c'est Moshe l'homme, il n'est pas là. Donc c'est intéressant comme ça, il y a. Moshe l'homme n'est pas là, voilà comment les termes. Puisque Moshe l'homme n'est pas là, il faut substituer. Et Moshe l'homme, c'est quoi? C'est celui qui va devant nous, deuxième terme. Il faut substituer à Moshe l'homme. Un troisième terme, qui est Elohim. Voilà. Donc, ça va comme une forme d'équation. Il y a un homme qui n'est pas là, mais parce que lui, c'est l'homme, pour aller devant nous, à ce moment-là, il faut des Elohim. Et ça va, bon, ben, c'est ce qui va se passer. Aaron va faire un truc qu'on va appeler le veau d'or. Et à la fin du verset, donc il leur dit, bon, demain, il y aura la fête. Vayashkimu Memachorat, le dernier verset du ici, Vayashkimu Memachorat, ils sont levés le lendemain. Vayahalu Olot, ils ont emporté donc des Olot, Vayagishu Shlamim. Vayeshavaham, le peuple s'est assis, Lechol, pour manger, Vayashato, pour boire. Vayakumu, ils se sont levés. Le Tzachek, pour jouer, vous n'avez pas le terme. Les Tzachek, pour jouer. Ils sont allés jouer. Et ici, les sages disent que les Tzachek, c'est Gilou Yerva. Ça veut dire découvrir. Ce qui, lorsqu'on le découvre, reste nu, c'est-à-dire la loi des toutes les unions interdites, les unions incestueuses, c'est appelé dans la Torah, enfin dans beaucoup de textes, l'otégaler va, ne découvre pas ce que, lorsque tu vas le découvrir, en fin de compte, tu vas t'apercevoir que c'est nu. Ne découvre pas ça. Et le terme ici qui est employé pour dire cette chose-là, c'est ils sont allés jouer. On peut l'employer dans plusieurs termes différents. On peut dire c'est ashrata, on pourrait dire c'est destruction, on pourrait dire c'est des chochev de coucher, on pourrait dire que c'est dénudé. Non, mais le terme ici c'est jouer. Ils sont allés jouer. Et les Chachamim, par un effet de langage, ils pointent que ce qui est là, c'est une affaire de Gilou Yerva. Bon. Alors voilà, la paracha finit là-bas. La paracha, c'est-à-dire le cadran dans la Torah, on a un cadran, un chapitre. Ça commence par Moshe qui arrive à parler avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire Dieu lui parle quelque chose, ça résonne bien chez lui. Au fait que les Juifs veulent un Elohim, enfin une partie des Juifs veulent un Elohim, et on finit par un dévoilement de... Bon, voilà. Alors ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Alors moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est de venir dire ce terme-là qui introduit la faute du veau d'or, c'est de dire que, voilà, il y a un homme qui s'appelle Moshe. Et c'est lui l'homme. Et ça me gêne que tout un peuple vienne dire, alors Soit on va dire, oui, c'est l'homme par excellence. Ouais, c'est un type bien, c'est un grand homme. Mais c'est trop prononcé comme étant Moshe. Ha-ish. C'est sûr, c'est l'homme, c'est le médiateur entre Akadosh Baruch Hu et le peuple. Mais de là venir à dire Ha-ish, c'est comme s'ils en perdaient eux-mêmes leur masculinité, leur Ha-ish. Et les Chachamim, ils pointent cette chose-là dans Sanhedrin Kufyud, où ils nous enseignent que, alors c'est un texte que vous avez, un texte qui est très court, mais il vaut le coup d'être lu. Il vaut le coup d'être lu. Le texte dit la chose suivante. Alors, le texte, il y a, dans les petites lignes, on va dire avant la fin, avant le début des grandes lignes, il y a 14 petites lignes avant le début des grandes lignes. 15. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Donc Rabbi Shmuel Bar Nachmani a dit au nom de Rabbi Yonatan, sur le passouk suivant, Chashdu Meshetish. Shenemar Vayekanu le Moshe Ben Machane. Amar Rabbi Shmuel Bar Yitzhak. Melamed Kol Echad Vechad Kina Et Ishto Mi Moshe. Shenemar Moshe Yikach Et Ha'Ohel Venata Lo Michutz La Machane. Etc. Voilà. Donc ce texte-là, il dit la chose suivante. Il y a un texte qui dit qu'ils ont jalousé Moshe jusqu'à ce que Moshe prenne sa tente et la mettre à l'extérieur du camp. De quoi ils l'ont jalousé? Ben, ils ont dit à leur femme, faites attention à cet homme-là, il pourrait coucher éventuellement avec vous. Donc je vous préviens, il y a une fameuse loi de Sota, que si un homme est soupçonneux par rapport à sa femme, il lui dit, écoute, t'isole pas avec cet homme, on ne sait jamais ce qu'il pourrait faire avec toi, tu pourrais y être sensible. Donc là, on voit une forme de jalousie donc, des Bnei Israël, ou de certains d'entre eux, où ils perdent, on va dire, leur masculinité à tel point que même au niveau de leur relation avec leur femme, ils viennent à dire que peut-être on ne détiendrait plus quelque chose qui pourrait faire lien entre elle et moi. Mais lui, par contre, il le tient, cette chose-là. Lui, il est détenteur d'une chose que moi, je ne suis pas détenteur, et jusqu'à ma femme, il y a un problème. Donc on voit que les Chachamim associent quelque chose qui est assez exceptionnel, d'un Moshe Haïch, donc l'homme Moshe, je pense que c'est lui l'homme, par rapport à un problème X, on le retrouve par rapport au problème physique des plus, on va dire, triviaux, d'un homme avec sa femme, ce qu'il pense lui dans sa tête, dans son imagination à lui, ce qu'il se soupçonne de ce qu'il a ou qu'il n'a pas et qu'il attribue à l'autre. C'est très très loin selon moi comme cheminement dans la pensée. Ce qui est posé a priori dans la question d'Ebné Israël, c'est de dire voilà, on est sorti d'Égypte, on n'appartient plus, on va dire, au mécanisme des nations, on appartient à un autre type de mécanisme, et il y a un homme qui porte la question du sens et qui porte la question de la direction. Celui qui nous a fait sortir, il n'est plus là. Comment on va continuer pour cheminer? La question du sens, de la direction, de comment on va y aller, comment on va aller, comment on va ch chercher, trouver, on n'a pas. C'est la question du sens avec le vide du sens. Le sens pose une question du vide. Et face au vide, on a peur. Face au sens qu'on doit donner, on a peur. Particulièrement les Bnei Israël qui ont été, on va dire, engouffré dans quelque chose de beaucoup trop fort qui est déjà Matan Torah, par rapport à cette question de on est pris par cette chose-là, mais comment on va y donner du sens, comment on va continuer à cheminer là-dedans? Comment porter la question du sens? Un homme l'a porté. Le problème, c'est un homme, cet homme-là qui l'a porté, l'homme par excellence qui portait la question du sens, il n'est plus là. Nous, par rapport à la question du sens, on ne sait pas accepter le vide et le creux que la question du sens pose. Et là, la question il nous faut un expédient. Un expédient, c'est un objet. La question du sens, fondamentalement, elle ne peut pas être portée par quelqu'un, elle ne peut être portée que par celui qui en produit du sens. Le sens, ça ne peut pas être porté par quelqu'un d'autre que soi. Il peut avoir un médiateur, mais en aucun cas ce médiateur peut porter la question du vide. Et là, lorsque les Israël se soupçonnent de ne pas être à la hauteur, même par rapport à leur femme, c'est que la question du vide, où ils peuvent être, on va dire, expliquant, produisant, disant, ils doivent sortir quelque chose d'eux, dire qu'ils ont quelque chose à dire là-dessus, dans le sens où ça ne va pas de soi, ça va de toi, c'est ce qui fait que dans la tête d'un homme, même par rapport à sa femme, il est plus présent. Il ne s'agit pas d'expliquer les problèmes d'intimité ou pas, il s'agit de venir dire qu'il y a une articulation très 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 forte des Chazal entre des questions qui seraient d'un ordre, on va dire, beaucoup plus, la question du sens, et les questions qui apparemment appartiennent aux questions du corps. Donc les Bnei Israël réclament, par rapport à cette question du sens qu'ils ne peuvent pas donner et produire, ils réclament quelqu'un qui la produira à leur place. Et lorsque on n'accepte pas le vide du sens, alors on tombe dans un travers qui est Elohim, qui fait nous des Elohim. Nous faire des Elohim, c'est de venir dire qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui pourrait plus facilement produire le sens. C'est peut-être ce qui est dit donc au départ, c'est dans l'effort des deux qu'éloigne le Havon. Comme si cette faute-là, elle était, on va dire, antinomique à l'effort. C'est-à-dire que dans l'effort, c'est poser la question du sens, la question du manque et donc de la production de sens jusqu'au bout. Et le Havon, c'est de venir dire qu'on peut solutionner la question du sens par des expédients. Et entre autres, ces expédients, donc on aurait peut-être une définition, on va dire, on peut voir peut-être quelque chose de plus dans ce problème de l'Avodah Zarah. C'est que l'Avodah Zarah, c'est venir dire que, dans son antinomie avec l'Avodah Hashem, c'est venir dire, on a trouvé un truc. On a trouvé quelque chose qui solutionne la question du sens. Et la rencontre avec Dieu, c'est de dire non, par rapport à Dieu, il y a toujours un creux. Et dans ce creux, tu vas pouvoir dire, et tu vas pouvoir redire, tu vas toujours essayer de dire quelque chose, mais ça va gesticuler, ça va bouger, ça va se déplacer. Mais ça reste un creux. Et ce qui est articulé ici comme étant le problème de Gilui Erva, c'est-à-dire que lorsqu'on articule ici, ils sont allés faire de la débauche, excusez-moi du terme, je ne pense pas que c'est le terme adéquat, ils sont allés jouer. Il ne s'agit pas de dire ici que, en fin de compte, un pansexualisme, que voilà, les gens, c'est ce qui les fait bouger et rien d'autre. Non. Il s'agit de venir dire que si on l'articule précisément là, c'est que par rapport à la question du sens, on tombe dans la question du besoin. Et vouloir ramener la question du sens à la question du besoin, c'est-à-dire le problème du sens, c'est un problème qui est de l'ordre du langage, de la production du langage. Le problème du besoin, c'est le problème du corps. Lorsqu'ils ont voulu faire Gilou Yerva, ça voudrait dire perdre le nom des choses qui sont de l'ordre du corps. La première loi, qui est la loi, enfin, la première loi, la fonction de la loi dans la notion de Arayot, c'est de venir dire que dans ce qu'on parle, lorsqu'on parle du corps, on ne parle pas du corps. On parle, il y a un nom dans le corps. Il y a cette femme, je ne peux pas la toucher, cette femme, je peux la toucher, la mère, non, la mère dans ce cas de figure, oui, la sœur, non, la femme du père, non. Les gens, par les lois, prennent un nom et une fonction et un sens qui gesticulent. Lorsqu'on veut, dans ce qui est de l'ordre du besoin, besoin du corps, articuler ce besoin que dans l'ordre du besoin et pas dans l'ordre du langage, c'est de vouloir nier la question du sens qui est une question de langage. C'est vouloir jouer. Jouer, c'est vouloir dire qu'on peut jouer avec ça, perdre le nom des choses. On pourrait jouer avec ça. Ça perd un nom. Et un nom, c'est un sens qui n'est jamais fini. qui est toujours là à dire et à être redit et dit différemment, ça bouge. Ça ne peut pas être dit et ça s'explose et ça se dit différemment. Un nom ne peut pas être gardé. Un nom est toujours à être interprété. Par contre, un besoin, on a voulu lier le besoin au corps. Donc porter la question du sens, c'est pour porter la question du langage qui va se déplacer, qui va jamais se terminer. Tenter de venir dire que les choses seraient liées au corps, c'est porter la question du manque à la question de l'objet. Et le manque, évidemment, n'est pas lié à l'objet. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais remercier Rav Moshe et de m'avoir invité. Et j'espère que voilà, ça a pu être. Ah, donc, si on, ça s'articule. Voilà. Avec plaisir. J'avais peur, moi je vois 60 minutes, donc je me suis dit, je dépasse mon temps de parole. C'est pour ça. Donc j'ai essayé d'arrêter un petit peu le.
Non, j'avoue que je n'ai pas forcément tout compris. Ah. C'est bien sûr le raisonnement, mais là il me manque un petit peu comment on reboucle
voilà.
Sur le départ. Sur
voilà. Sur le ça veut dire que par rapport à.
Alors, la définition que vous en donneriez à partir de ça.
Voilà. Ce qui m'a interpellé, donc. Pourquoi j'ai parlé de ça, c'est que fondamentalement, lorsqu'on a parlé de la richesse, on a parlé donc de l'effort. Et ce terme-là d'effort par rapport à la faute, c'est qu'il s'agit de on a soutenu que dans l'effort, il y a ce qui est posé, c'est le manque. Je vais Rahamim le rappelle, je pense que ils veulent absolument pas qu'on y échappe. Mais le manque de quoi ? Là est le problème. Est-ce que c'est manque, on va dire, manque d'objet, manque de statut, manque de quoi ? Et en posant, on va dire, le manque d'expression, c'est-à-dire de, dans le sens d'une production de sens, une production de langage. Qui est le tien. Je vais faire très attention de ne pas dire, rentrer dans le culte, ça serait complètement possible cette chose-là. C'est pas complètement possible. Mais on va dire, on le tente au moins. Lorsque on pense le manque comme étant manque d'objet, alors à ce moment-là, il y a radicalement un collage de l'homme aux objets. Et ce collage, ça, ce qui s'appelle Gilou Yerva, on ne nomme plus les objets. On va tenter d'y aller jusqu'au bout. Dans la parole, il y a une rupture par rapport à ça. La question du manque, elle est soulevée. Le manque n'est pas là pour être comblé. Le manque est là juste pour que tu puisses produire et dire quelque chose.
Acheré serait l'acceptation d'un manque qui permet de construire du sens.
Mais pas, je veux dire, faut faire très attention. Faut faire très attention à dire que c'est, tant mieux pour celui qui y arrive. Acheré, c'est tant mieux pour celui qui y arrive. Et de construire du sens, c'est pas, on va dire, on apparaît comme étant des êtres intellectuels, mais plutôt de dire qu'il ne s'agit que de ce que tu as à dire. Et où est-ce que le dire il est? Il est toujours dans une production qui bouge. Et cette production qui bouge, c'est le sens, c'est la parole. C'est comment aujourd'hui je dis ça et demain comment je le dis. Et c'est là où le sujet est radicalement invité. Et en tant qu'étant radicalement invité, on peut parler donc de richesse. C'est là où le sujet est attendu Et c'est là où il est invité à dire quelque chose. Et c'est là où chez lui se pose sa question du manque à dire. Il manque de toi. Il manque de l'homme. Alors que de dire il manque d'un objet, et c'est là où c'est très, très pointé dans cette paracha. Moshe, c'est l'homme, parce que c'est lui qui dit que par rapport à la question du manque, par rapport à la question du manque du sens, il accepte de la poser. Mais le manque de sens, ça ne se résout pas. Le manque de direction, le manque de qu'est-ce qu'il faut que je fasse, par quoi on se nourrit, par quoi on apaise la satisfaction. Qui c'est qui va nous dire comment on apaise la satisfaction? On a presque besoin aujourd'hui d'entendre, mais par quoi, mais par quoi tu t'es apaisé, papa? Par l'argent, par quel type de, par quelle activité? Par le sport? Non, la question de qu'est-ce qui apaiserait, on va dire, l'homme, elle est posée par Moshe comme étant une question radicalement manquante, et ça manque de ton sens. Et par rapport à la question du divin, parce que si c'est ça ce que la Torah nous parle, pas, on va dire, c'est pas un livre seulement de psychologie. Avant la question du divin, tout compte fait, c'est de toi que peut provenir le sens. Ça veut dire, quand bien même il y a un caractère hiératique de yira, d'une parole qu'on a entendue, etc., 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 ce qui est vrai, mais à un moment, c'est toi qui va dire quelque chose là-dedans. Et entre ces dires-là, il va y avoir des creux. Et de ces creux-là, lorsqu'on ne veut pas les accepter, alors on prend des courts-circuits. Et les courts-circuits, ça veut dire que le nom est fort, parce que c'est ça qui est fondamental dans le hacheré, c'est ça qu'il faut retenir dans le hacheré. C'est que le hacheré, si on pose le sujet de façon radicale, on pose aussi l'effort en tant que double implication, en tant que l'implication du manque, mais en tant que l'implication de production. Et c'est lorsqu'on est rapide dans la question, lorsqu'on veut absolument trouver des courts-circuits, à ce moment-là, on rencontre le Havon. Le Havon, c'est le court-circuit. C'est comme ça qu'il est défini dans la Mishnah. C'est intéressant de le définir comme ça. De quelle faute on parle? La faute, c'est justement, il y a un homme qui est qualifié comme tel et qui voudrait tenter de venir perdre son rapport à la langue, c'est-à-dire son rapport au sens qu'il peut donner aux choses, en prenant des courts-circuits. Il faut bien voir que les Rachamim ont articulé le hacheré à la Yegia, à Néné, mais Yegia Kapo. Il ne s'agit pas du culte de l'effort, il s'agit du culte de l'expression, selon moi, dans le sens qu'il y a quelque chose qui sort de ça. Et la satisfaction, c'est, on va dire, ça mesure deux choses. Un type qui a un profit de ce qu'il fait, ça mesure qu'il n'est pas, on va dire, il n'est pas étranger à ça, soit parce qu'il ne jouerait pas dans sa catégorie, c'est le néné qu'on oppose au yaré, et aussi, on va dire, il est content de ça dans le sens où il n'est pas pris par des démons qui pourraient jouer une meilleure partition. Ce type de démon ne le prennent pas. Il comprend que la seule chose qu'un homme peut faire, c'est de dire ce qu'il a à dire. Que ce soit dans le monde de l'action, que ce soit dans le monde de la pensée, que ce soit dans le monde de, peu importe, de la musique, whatever, de dire ce qu'il a à dire. Mais il s'agit de production de l'homme. Donc dès qu'il s'agit de production de l'homme, dès qu'il s'agit d'effort, il ne s'agit pas de perdre le nom des choses. Et le Gilou Yerva, c'est la perte du nom des choses. Voilà. J'ai absolument pas, absolument pas voulu articuler les choses dans ce sens. Ça pourrait être, je veux dire, bon, à part le matin de Torah, le don de la Torah, quoique, ça pourrait être universel. Ça pourrait être universel. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est. Je veux dire, c'est pas, je sais, n'importe quel homme, juif ou pas juif. J'ai absolument pas voulu rentrer dans le mazal. Oui, j'entends.
C'est plus dans cette.
Ouais, mais ouais, c'est intéressant. Mais, dit comme ça, de ne pas se contenter.
C'est-à-dire, l'homme riche n'est pas celui qui se contente de cela, mais qui ne se contente pas de ce qu'il est.
Ça ferait, je m'excuse, mais de dire les choses comme ça ferait glisser le débat sur du commercial. C'est-à-dire, on veut vendre notre marchandise qui est, il faut être des gens bien, etc. Donc, ne vous contentez pas de ce que vous êtes. Non, je pense que ce qui est pointé, c'est qu'on n'échappe pas à la question du manque. Personne n'y échappe. Seulement, le type de solution qu'on veut apporter, c'est pas le même. Si on pose le manque en tant que manque d'objet ou manque à être, dans le sens d'être, je sais pas moi, être président de société ou être un grand acteur ou je sais, la solution, elle n'est pas bonne. Par contre, de manque à l'expression de toi, c'est là où on va dire, on pointe ce qu'il manque véritablement à un homme. De quel manque il s'agit. Il ne s'agit pas, on va dire, il s'agit pas d'être élitiste. Ne te contente pas de ce que tu es, ce serait presque un discours élitiste. J'ai dit, notre grand petit homme nous le répète sans arrêt, travailler, etc. Plus. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on a. Etc. Non, il ne s'agit pas de mettre l'être et l'avoir, etc. Il s'agit de dire que c'est dans le sujet que la question se pose. Et que lorsqu'on dit un homme est manquant, on vient juste te rappeler, parce que ne crois pas que l'autre qui va, je sais pas moi, jouer la partie d'une autre façon, il n'est pas manquant. Il est autant manquant que toi. Seulement, peut-être il a été d'accord, peut-être, à penser qu'il avait oublié. À penser qu'il l'avait oublié. Mais il n'a pas oublié. Donc, je ne veux pas le dire sur ce mode-là, parce que la Mishnah, je pense qu'il faut essayer de lui faire dire du vrai, pas de vendre sa marchandise, qu'on doit être des gens bien. Du vrai, ça veut dire on manque tous. Mais elle fait une articulation du manque, c'est manque d'expression. Voilà. Au départ, Moshé m'avait demandé de parler sur un thème, la vengeance. Je m'excuse. J'avais pas essayé de travailler le thème. Et alors lui, il a écrit quelque chose de très bien là-dessus. Mais j'arrivais pas à dire là-dessus. Il fallait que je dise, on va dire, je parle de l'expression. Donc il fallait que je m'exprime moi, quoi, dans cette affaire. Donc j'arrivais pas. J'ai pas été à la hauteur là-dessus. Donc je m'en excuse. Et voilà, c'est ce que j'avais à dire. Passe bonne soirée.
Ah, d'accord, ça va. Je crois que c'est très...